le téléphone rouge sonnera peut-être à nouveau. Vladimir Poutine accepte de parler au futur président des États-Unis. Donald Trump voulait mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Il l'a annoncé pendant sa campagne. Mais qu'en est-il de la guerre à Gaza ? Et puis le républicain voulait aussi instaurer de nouveaux droits de douane contre la Chine. Par exemple, Trump face au reste du monde, bienvenue dans le Washington Briefing. Bonjour Thierry Arnaud.
Bonjour Yves.
Tu es éditorialiste politique international, tu es en ce moment à New York. Bonjour Benoît Ballet.
Salut Yves.
Tu es en ce moment en Floride, tu es correspondant aux États-Unis. Benoît, Donald Trump parlait pendant sa campagne de vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine en juste 24 heures.
Oui, alors ces 24 heures sont passées. Hein. alors on ne sait pas si Donald Trump comptait le faire juste après son élection ou après son investiture le 20 janvier prochain. À mon sens, et on verra ce qu'en dit Thierry, ça faisait partie de ces déclarations à l'emporte-pièce, censées faire plaisir à son électorat, appâter un petit peu, et surtout faire comprendre que le message sous-jacent, c'était de dire que voilà, il ne voulait pas que cette guerre s'éternise, parce que, tu sais, les États-Unis sont le plus gros pourvoyeur d'armes, le plus gros soutien militaire à l'Ukraine, et donc... Donald Trump, il a été élu sur ce message qui est de dire que les États-Unis ne doivent pas financer des guerres, qui plus est des guerres extrêmement loin de leur territoire. Donc je ne suis pas sûr que Donald Trump mettra fin au conflit en Ukraine en 24 heures. En tout cas, le message, il est là, il est qu'il veut que ce conflit prenne fin. Il s'est déjà entretenu au téléphone avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et il a dit hier dans sa première interview à une télévision américaine, c'était NBC News, même si c'était qu'au téléphone, il a dit qu'il pensait qu'il allait très prochainement s'entretenir avec Vladimir Poutine, le président russe. Donc on va attendre de voir, mais effectivement, il y a cette volonté côté Donald Trump de mettre fin à ce conflit. Et juste une anecdote avant de laisser la parole à Thierry, mais tout à l'heure, je parlais avec un ami ukrainien qui vit à Kiev, avec qui j'ai beaucoup travaillé quand j'ai couvert ce conflit. C'est vrai qu'en Ukraine, on suit énormément, beaucoup, on a suivi ces élections, on a suivi la victoire de Donald Trump et on est très, très attentif aux mesures que prendra et aux gestes, aux mots qu'emploiera Donald Trump quand il sera effectivement devenu président.
Thierry, est-ce que les Ukrainiens sont justement inquiets que les États-Unis arrêtent de livrer des armes ?
Il faut dire les choses d'abord clairement. La première idée à avoir en tête, c'est que l'Ukraine, ce n'est pas du tout la priorité de Donald Trump. Il a d'autres sujets sur la table. Il a plein de choses à préparer. Il est conscient d'avoir fait cette promesse de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Mais ce n'est pas ce qui est au sommet de la pile des sujets qu'il a traité. Donc, pour l'instant, je pense qu'on n'aura pas forcément de vision très claire de ce que sont ses priorités sur ce sujet-là dans les heures ou dans les jours qui viennent. Si on en croit ce que racontent les journaux américains, il y a autour de lui, en fait, deux factions qui ont soumis des idées. La première est plutôt favorable à une attitude peut-être un peu plus dure que celle que Donald Trump avait laissé entendre, au sens où elle présente à Donald Trump comme essentielle l'idée selon laquelle, bien sûr, il faut faire la paix, mais ce serait dangereux que cette paix soit perçue et se traduise concrètement comme une victoire de la Russie. Donc, il faut trouver un moyen quand même de négocier des concessions avec Moscou. Et puis, il y a une autre faction qui est plus radicale, qui considère, elle, que l'essentiel, c'est de tenir la promesse. Et donc, peu importe le prix, finalement, le coût, et en particulier, bien sûr, pour les Ukrainiens, mais ce qui compte, c'est d'aller vite et de faire en sorte qu'on obtienne la paix, encore une fois, quelles que soient les concessions demandées à l'Ukraine. Une des idées sur la table qui a été évoquée notamment par le Wall Street Journal hier sur la base de conversations avec plusieurs des conseillers de Donald Trump serait la suivante. Kiev s'engagerait à ne pas rejoindre l'OTAN au moins pour les 20 prochaines années. En échange de cette promesse, les États-Unis accepterait de continuer à soutenir l'Ukraine militairement. Voilà, donc tu vois, pour l'instant, il y a plusieurs options sur la table, entre lesquelles Donald Trump n'a pas nécessairement tranché, Et encore une fois, je pense que ce n'est pas le sujet prioritaire pour lui.
Oui, c'est vrai, Benoît, il n'a pas forcément fait campagne sur les questions internationales, Donald Trump. Même sur la guerre à Gaza, il n'en parlait pas.
Très peu sur cette question du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Donald Trump a surtout expliqué qu'il était hors de question de laisser le moindre pouce d'existence possible vis-à-vis de l'Iran. Il a répété à de nombreuses reprises que, tu sais, il faisait une liste des menaces existentielles pour les États-Unis. On lui parlait du réchauffement climatique notamment. Et ce qu'il répondait à chaque fois, c'était que pour lui, la plus grosse menace, c'était la menace nucléaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui semble obséder Donald Trump. Et donc, il revenait régulièrement sur la question de l'Iran, empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. Donc, pour ce qui est du Moyen-Orient, il semble que vraiment ce qui importe pour Donald Trump, c'est de museler l'Iran, d'empêcher que l'ennemi iranien puisse continuer à grandir et donc de continuer à protéger coûte que coûte Israël. Donald Trump, ça n'est pas quelqu'un qui a montré une particulière sympathie pour les Palestiniens, pour les Libanais. Mais effectivement, Thierry a tout à fait raison. L'international, ça n'a pas été... sur cet agenda, sur ce programme qu'il a été élu, Donald Trump. Il a été élu sur des questions majoritairement économiques dans son pays, dans les États-Unis, le fait de pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux Américains et la question de l'immigration illégale, avec cette promesse d'expulser des millions de clandestins arrivés aux États-Unis ces dernières années. Donc l'international, c'est vrai que nous, ça nous concerne. L'ordre du monde, c'est toujours une question très importante lorsqu'un nouveau président américain est nommé. Mais effectivement, Thierry avait tout à fait raison, ça ne sera pas la priorité de Donald Trump de régler les questions et de stabiliser l'ordre mondial. On s'attend plutôt, tu sais, il avait souvent cette expression du day one, de ce qu'il allait faire au premier jour de son mandat. Vraisemblablement, ça va plutôt tourner autour donc de ces mesures pour mettre des clandestins, des criminels selon lui, sous les barreaux, expulser énormément, continuer à forer, lancer des politiques de réduction d'impôts, etc., etc. Mais voilà, régler la question de la guerre en Ukraine, aider plus particulièrement Israël, lancer des politiques très agressives contre l'Iran, ça risque d'arriver dans un second temps.
Thierry, est-ce que Thierry, le Premier ministre israélien, il a réagi, il a posté sur X, votre retour historique à la Maison-Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique. Qu'est-ce qu'il attend, Benjamin Netanyahou, de Donald Trump ?
Joe Biden, et c'est vraiment une litote que de dire les choses comme ça. Ses rapports avec l'actuel président américain étaient exécrables. Ses rapports avec Donald Trump étaient excellents. Donc, il attend la poursuite du soutien et, très franchement, la disparition de la pression assez forte que l'administration Biden a essayé d'exercer sur lui, sans le moindre effet, évidemment, mais pour essayer de le convaincre de changer de méthode à Gaza et au sud Liban. On va voir comment concrètement tout ça se traduit. Ce qui est clair, c'est que du temps où il était président, il y avait un soutien vraiment très clair de Donald Trump pour la politique conduite par Benjamin Netanyahou, singulièrement en Cisjordanie, avec cette politique de colonisation. Voilà, on attend le retour à cette décision-là, à cette pratique-là, cette diplomatie-là. Tu te souviens que Donald Trump avait aussi transféré, et symboliquement c'était évidemment crucial pour Israël et singulièrement pour Netanyahou, de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, un geste évidemment très fort. Donc c'est cette ligne-là qu'on s'attend à voir continuer dans les mois qui viennent à mesure que Trump s'installe au pouvoir. Sachant qu'il y a un peu ce paradoxe aussi, c'est-à-dire qu'il est allé évidemment courtiser la communauté arabo-musulmane ici aux États-Unis et singulièrement dans l'État du Michigan, avec un certain succès, en promettant une paix et donc en promettant une paix relativement équilibrée, aussi en considérant les besoins palestiniens. C'est évidemment pas du tout le signal qui est renvoyé par Netanyahou.
Benoît, on parlait de cette campagne de Donald Trump. Il a beaucoup, beaucoup parlé de l'économie. Il a gagné en grande partie grâce à ça. Et grâce à une idée peut-être, celle d'élever les droits de douane de 10%, notamment sur les produits chinois. Est-ce qu'on peut imaginer aussi une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ?
Oui, alors d'ailleurs, tu sais, il a dit beaucoup de choses. Il a dit 10%, il a dit 20%. Mmh. Parfois, il a parlé de 60%, parfois de 100%, voire de 200%. Mais effectivement, il y a cette volonté d'augmenter les tarifs douaniers. D'abord pour montrer les muscles face à la Chine qui est régulièrement présentée comme un des ennemis les plus importants des États-Unis. Et puis ces politiques de hausse des tarifs douaniers, elles doivent aussi, et c'est comme ça qu'il les a présentées, hein, Donald Trump, lui permettre de financer le reste de ces programmes, on va dire, sociaux, ou de financer des baisses de taxes pour les entreprises ou pour les plus riches, de financer des crédits d'impôt pour les personnes qui auraient un premier enfant, etc., etc. Et il a vraiment basé tout son système, tout son agenda économique sur les recettes que, d'après lui, pourrait donc générer la hausse des tarifs douaniers, même si de nombreux économistes ont plutôt expliqué que cela risquait de faire augmenter l'inflation et de placer de nouveau les États-Unis dans une spirale inflationniste très compliquée à gérer. Mais effectivement, il a sorti les muscles face à la Chine. Est-ce que ça peut déclencher une nouvelle guerre commerciale ? C'est très difficile à dire. La Chine ne va pas très bien économiquement parlant en ce moment, mais est-ce que Donald Trump va vraiment vouloir dégrader cette relation ? Les deux pays ont quand même besoin l'un de l'autre. Et puis il y a aussi cette volonté pour Donald Trump quand même, tu sais, de faire en sorte de relocaliser ou d'éviter que de nombreuses industries choisissent d'utiliser par exemple des semi-conducteurs qui pourraient être plutôt fabriqués en Chine ou des batteries. Il a notamment expliqué Donald Trump qu'il voulait se débarrasser des véhicules électriques ou de ses productions dont une certaine partie sont produites en Chine. Donc il y a effectivement, on sent une volonté de faire peur. Voilà, on montre les muscles à l'ennemi chinois. Comment est-ce que cela va se traduire très concrètement dans les faits? De mon point de vue, j'ai envie de dire qu'il faut attendre et voir. Je ne sais pas si Thierry partagera cet avis.
D'abord, je pense que l'impact de l'administration Trump sur le monde, il sera perceptible d'abord et surtout, je pense, par effectivement sa politique économique. Qui est marquée par trois aspects. Le protectionnisme avec les droits de douane dont on vient de parler, la relance massive de la production d'énergie fossile, y compris la fracturation hydraulique qu'il va soutenir. Ça, c'est très clair. Et puis, troisièmement, une politique fiscale très agressive qui va favoriser la compétitivité des entreprises américaines. Donc ça va être, je pense, assez déterminant et pour le coup assez concret dans la manière dont ça va affecter le monde. Ensuite, je pense que la boussole de Trump, elle sera assez simple. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de mieux pour favoriser les intérêts américains ? Et par parenthèse, les intérêts américains, ça sera aussi les intérêts de Donald Trump, parce qu'il y a quand même une particularité par rapport aux autres présidents de celui-là, c'est qu'il est à la tête d'une entreprise, enfin d'une série d'entreprises, d'un groupe familial qui a des intérêts économiques dans des régions qui sont concernées par l'actualité internationale. Je pense par exemple au Moyen-Orient, aux investissements que son groupe et que sa famille ont fait en Arabie Saoudite par exemple. Et je pense que, voilà, sans vouloir, l'accuser de vouloir d'être à la Maison-Blanche pour se remplir les poches, je pense qu'il aura aussi présent à l'esprit les intérêts économiques et le business de sa famille.
Quelles pourraient être les relations entre Donald Trump et la France ?
Alors, les relations entre Donald Trump et la France, elles vont s'établir sur une nouvelle base, parce qu'elles avaient démarré, tu te souviens, en 2017 avec l'arrivée au pouvoir en janvier de Donald Trump et puis quelques mois plus tard l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en France. Et à cette époque-là, le président français, c'est la star de la diplomatie européenne, c'est celui qu'on présente comme capable de relancer l'Europe. de l'aider à se reconstruire. Il reçoit, tu te souviens, Donald Trump en grande pompe et avec beaucoup d'égards pour une visite d'État. Et il l'invite notamment au défilé du 14 juillet. Et à ce moment-là, il attend deux choses de Donald Trump très concrètes. Un, que les États-Unis restent dans l'accord de Paris sur le climat alors que Donald Trump a promis d'en sortir. Et deux, que Donald Trump s'engage à poursuivre les négociations et l'accord en particulier sur le nucléaire iranien, cet accord qu'il avait critiqué et qu'il entendait dénoncer. Il a fait totalement la sourde oreille aux demandes du président français, Donald Trump. Il a quitté l'accord de Paris, il a fait exploser l'accord, le deal sur le nucléaire iranien. Et donc, assez vite, le président français a compris que ce ne serait pas forcément un interlocuteur très, très commode et qu'il était totalement insensible à son offensive de charme. Aujourd'hui, il faut dire les choses. Outre le fait, on en parlait tout à l'heure, que l'Europe, ce n'est pas la priorité de Donald Trump, le président français a perdu beaucoup de son capital politique et donc de son levier vis-à-vis, sur la scène internationale et vis-à-vis des États-Unis. C'est un président impopulaire, c'est un président en cohabitation. Donc c'est un président qui est assez largement, aux yeux des Américains, qui sont très pragmatiques, relativement démonétisés en tant qu'interlocuteur de premier plan, même si la France reste la France. Et par ailleurs, tu as à côté de ça le chancelier Scholz qui vient de virer son ministre libéral, faire exploser sa coalition. Donc c'est aussi affaibli. Et du point de vue de l'Amérique de Trump et de sa diplomatie, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont plutôt le vent en poupe en Europe aujourd'hui, ce sont plutôt ceux qui sont alignés avec sa vision du pouvoir, son idéologie. C'est Meloni en Italie, c'est Orban en Hongrie. Alors, il ne faut pas perdre de vue que l'économie italienne et l'économie hongroise, ça ne pèse pas du tout la même chose malgré tout que l'économie française ou l'économie allemande. Et ça va évidemment aussi compter dans les égards et dans l'attention que l'administration Trump va accorder à la France et à l'Allemagne. Mais en tout cas, quand tu te dis que même un président français au sommet et une chancelière allemande solide comme Angela Merkel ne sont pas arrivés à faire bouger d'un pouce Donald Trump sur ses priorités, tu peux t'interroger sur la capacité d'influence que peuvent avoir un président, encore une fois, affaibli en France et un chancelier très affaibli aussi en Allemagne.
Dernier mot pour parler de la question de l'OTAN. On se souvient avoir entendu Donald Trump durant cette campagne expliquer que si l'Europe ne payait pas leur facture, alors il n'empêcherait pas quelqu'un comme Vladimir Poutine de tenter d'envahir un autre pays de l'Europe. Et on se souvient que c'est une déclaration qui avait fait beaucoup de bruit et qui avait été légèrement amendée ensuite par la campagne de Donald Trump en expliquant que non, mais il s'agissait vraiment juste d'un mot un petit peu fort, mais que la réalité était que les pays européens sont engagés à verser 2% de leur PIB à l'OTAN et que certains sont sur la trajectoire pour le faire, d'autres n'y sont pas encore. Et donc il y a toujours cette idée très business, très mercantile de Donald Trump. Un sou est un sou. Et donc si on ne paye pas la facture, eh bien on est en mesure de menacer, donc d'attaquer et de faire pression. Donc je pense qu'il faudra aussi être attentif à la question de l'OTAN, du leadership américain. Est-ce qu'ils iront, les États-Unis, jusqu'à se retirer de l'OTAN? Ça paraît un petit peu exagéré, mais voilà, je trouve que cette question qui dépasse quelque part l'Ukraine peut quand même mener à des discussions très intenses dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, justement, sur la question de ce financement. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'a évoqué Emmanuel Macron hier dans sa prise de parole, expliquant qu'il fallait que l'Europe désormais parle d'une seule voix, sache mieux où elle va pour se défendre. Donc on sent que quelque part l'élection de Donald Trump oblige aussi les Européens et la France évidemment à réfléchir à une nouvelle façon de se défendre en commun, ce qui est tout de même un serpent de mer, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais voilà, une nouvelle fois, on est confronté, j'ai l'impression, à cette question de la défense commune face à un partenaire historique américain qui demande davantage qu'avant et qui n'a plus l'air de, de trouver qu'un soutien indéfectible est une chose acquise.
Merci Thierry, merci Benoît. Vous reprenez le Washington Briefing en version hebdomadaire. Le Washington Briefing quotidien, c'est fini. On pourra vous retrouver tous les mercredis sur le site, l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci.
Salut Yves, merci à tous et merci en particulier à ceux qui ont été très nombreux à nous suivre pour la quotidienne.